Le Yiddish aujourd'hui. Chanson, musique, littérature, théâtre, événements, actualité. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Shalom Aleichem, bonjour à
Shalom.
Tous. Bonjour Astrid et bonjour Yaël.
Aujourd'hui,
Yaël, je suis bien entourée. voilà, donc Yaël est en vacances puisque c'est Pessah et donc elle peut participer à l'émission. Alors, cette émission passera après Pessah, mais j'ai encore trouvé un texte sur Pessah de Isaac Bashevis-Zinger, dont je ne vais pas rappeler la biographie puisqu'il est très connu et j'en ai déjà parlé beaucoup de fois. Alors, les œuvres de Bashevis-Zinger, les textes, surtout les nouvelles, ont paru dans le Vorwärts. Ensuite, ils ont été rassemblés dans des recueils. Le tout un peu dans le désordre. Hein, c'est-à-dire que ça concerne toutes sortes de périodes. Et donc, les œuvres qui concernent sa petite enfance sont rassemblées en fait dans deux recueils, l'un qui s'appelle Au tribunal de mon père, In mein Tatensbeis Dichtub en Yiddish. Et ici nous avons un autre recueil qui a été rassemblé sous le titre Un jour de plaisir, c'est le nom d'une des nouvelles. Donc, ça, c'est un ouvrage qui est paru chez Stock et qui en fait reprend des histoires de son enfance. Hein. Voilà, donc là, nous allons lire une histoire qui concerne Pessah et qui s'appelle « Un habit de Satan ». Voilà, je te donne la parole.
C'était surtout à nos vêtements qu'on voyait à quel point nous étions pauvres. La nourriture n'était pas chère, nous n'étions pas de gros mangeurs. Ma mère préparait de la soupe avec des pommes de terre, de la farine roussie, et des oignons. Nous ne mangeions des œufs qu'à Pâques. Un livre de viande coûtait 20 kopecks, c'est vrai, mais elle donnait beaucoup de bouillon. La farine, le sarrasin, les pois cassés, les haricots n'étaient pas coûteux.
Mais les vêtements l'été. Ma mère portait la même robe pendant des années et elle en prenait si grand soin qu'elle avait toujours l'air neuve. Une paire de chaussures lui durait 3 ans. Le caftan de satin de mon père était quelque peu défraîchi, tout comme ceux des autres membres de la maison d'études de Radjimin, ainsi que leurs calottes de velours. Pour nous, les enfants, c'était pire. Au bout de 3 mois, mes bottes n'étaient plus métables. Ma mère se plaignait que les autres enfants faisaient attention, mais que moi, j'abîmais tout.
À la maison d'études de Radjimin, le jour du Shabbat, les autres garçons venaient en caftan de soie ou de satin. Chapeau de velours, bottes bien cirées et ceinture. Moi, j'avais un caftan trop petit. De temps en temps, on m'achetait quelque chose de neuf. Mais seulement quand ce que j'avais jusque-là était vraiment loque.
Une fois, pourtant, juste avant Pessah, nous eûmes de la chance. C'était toujours une bonne période de l'année pour nous. Mon père recevait sa commission sur la vente à un non-juif, en l'occurrence le concierge de l'immeuble, la vente du chametz des gens, c'est-à-dire le pain levé, la farine, les planches à pain, tout ce qui est interdit dans une maison juive au moment de Pessah. Il y avait quelque chose d'un peu curieux dans cette transaction, étant donné qu'immédiatement après Pessah, chaque objet revenait à son premier propriétaire.
À force d'écouter les gens qui venaient vendre leur chametz, je réalisais à quel point nous étions démunis en comparaison avec eux. Ils voulaient se débarrasser de bouteilles d'eau-de-vie, de bocaux, de conserves. Nous n'avions à vendre que quelques pots, quelques casseroles. Parfois, quelqu'un apportait une liste sur laquelle était écrit « Une écurie et ses chevaux ». Je me suis toujours demandé comment un cheval pouvait bien être considéré comme du chametz? Peut-être parce que les chevaux mangent de l'avoine. Il y avait un homme dont le fils travaillait dans un cirque ambulant et qui se crut obligé d'inscrire toute la ménagerie sur une liste intitulée « Hametz a déclaré ».
Pourquoi cette année-là, la période de Pâques, fut-elle pour nous particulièrement heureuse ? D'abord parce que nous avions reçu beaucoup de beaux cadeaux à Pourim qui précèdent la Pâques seulement de 4 semaines. Mais surtout parce que Jonathan, un tailleur de Léoncine où mon père avait été rabbin autrefois, était venu s'installer à Varsovie. Grand, mince, le visage marqué par de la petite vérole, la barbe rare, les yeux brillants, Jonathan s'habillait comme un chassid, pas comme un tailleur. Le jour du Shabbat, il revêtait un caftan de satin. Il prisait du tabac, allait rendre visite au Rebbe de Radzimine à l'occasion des jours de fête, et il était en fait un érudit. Maintenant qu'il habitait Varsovie, il venait voir mon père pour discuter de points d'exégèse. Voyant l'état de ma garde-robe, Jonathan offrit de m'habiller à crédit. Nous pourrions payer quand cela nous arrangerait.
Quel coup de chance ! Tout en prenant mes mesures, il souriait fièrement et me traitait comme un membre de sa famille. En fait, il avait été présent à ma circoncision, en marquant le tissu avec un bout de craie. Il fit remarquer à ma mère. Oh, Rubenstein, comme les années s'envolent !
Jonathan n'avait apparemment pas d'autre travail en cours à ce moment-là, car à peine avait-il noté mes mesures qu'il me faisait revenir chez lui pour un premier essayage, au cours duquel il entreprit de vérifier mes progrès en hébreu. Il saisit même l'occasion de prononcer quelques phrases en hébreu lui-même et de faire quelques commentaires érudits. Il n'était qu'un modeste tailleur, mais il avait un grand amour du judaïsme et savourait chaque mot d'hébreu qu'il savait. Au moment de son mariage, il ne connaissait que les prières courantes, mais plus tard, il avait étudié les écritures en yiddish, appris la Mishnah avec un professeur et s'était fait aider par des étudiants. À Léoncin, on riait de ses aspirations, mais il prouva en dépit de tout qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon père faisait partie de ceux qui avaient aidé Jonathan à devenir un érudit et le tailleur était très désiré de lui exprimer sa gratitude.
Sa maison était remplie de petites filles, de bruit et d'odeurs de cuisine. Ces 3 filles, qui me connaissaient depuis ma plus petite enfance et qui me voyaient maintenant essayer un caftan de satin comme un homme, ne pouvaient s'empêcher de faire des commentaires. Elles discutaient avec leur mère pour savoir si mon caftan était bien coupé, à la bonne longueur. Ma mère, dans un geste d'une grande extravagance, m'avait également commandé des bottes chez Michael, le cordonnier. Je serais équipée de 9, de la tête aux pieds, pour faire mon entrée à la maison d'études de Radzimine, le premier jour de Pessah.
Moi, qui n'avais jamais eu la passion des vêtements, je m'intéressais vivement à chaque nouvel apport fait à ma garde-robe. Une couturière me cousait des chemises neuves et dans le placard, un chapeau de velours neuf était déjà rangé dans sa boîte. J'avais une vision de mon apparition triomphale à la maison d'études le soir de Pessah et de l'ébahissement des autres garçons. Mes vêtements m'avaient toujours fait sentir inférieure aux autres, même si j'en savais plus long qu'eux. Je savais ce qu'était le sionisme, le socialisme et aussi le poids de l'air et d'où venait le charbon, science que je tenais de mon frère Joshua et de la lecture d'un vieil almanach. Mais désormais, tout le monde verrait que moi aussi, je pouvais arborer un costume neuf pour les jours de fête. Dans l'ensemble, les tailleurs ne livraient jamais leur ouvrage à la date prévue, mais Jonathan, lui, était différent. Voilà, nous allons peut-être nous interrompre là pour écouter une musique et pour avant la fin de cette histoire.
Très belle histoire que je connaissais. Bah, j'espère que ça va pas mal se terminer. J'ai un peu peur avec.
Attention, il y a une chute.
Il y a une chute. Bon. Juste une chanson très joyeuse d'Herbert. Je l'ai déjà fait entendre plusieurs fois, mais ça fait rien. Taïr Malk, c'est une chanson bim-bam, il y a beaucoup de bim-bam. C'est une chanson qu'on chante en levant son verre. La santé de tous.
Une des 4 coupes de Pessah.
Oui, probablement, mais on la chante aussi en dehors de la fête de Pessah. Et puis, surtout dans cette version qui est très virtuose, pour chaque transition, c'est un autre air de Klezmer qui est joué. Donc voilà, elle s'appelle Der Becher, le verre.
Musique. zu sein. Gieß an den Becher mit Wein. Bim bam, bim bam, bim 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 bam, bim bam, bim bam, bim bam bam bam, bim bam, bim bam, bim bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam bam bam. Das ist schön, und die Tatum gehen, mein sei die, alle Bebe, bim bam, harara, bim bam, 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 bim bam, bim bam, bim bam, 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 bam.
C'est joyeux, j'espère que l'histoire va se terminer aussi joyeusement.
Attends, regarde comment ça continue.
Malgré tout, j'avais le pressentiment d'un désastre. Car les choses pouvaient-elles réellement se passer aussi bien que dans mes rêves? Mais d'un autre côté, que pouvait-il arriver d'imprévu? Et pourquoi étais-je si plein d'appréhension? Évidemment, Jonathan pouvait brûler le tissu en le repassant. Mon caftan pourrait être volé. J'avais appris, aussi bien dans la verge du châtiment qu'à travers ma propre expérience, que le monde matériel est plein d'embûches. Je m'étais trop épris de ces plaisirs. Malgré tout, les choses continuèrent à bien se passer. Fidèle à sa promesse, Michael, le cordonnier, nous livra une paire de bottes qui luisaient comme si on les avait laquées. Le caftan de satin était déjà pendu dans notre placard. Juste avant Pessah, les gens commencèrent à venir chez nous pour vendre leurs chametz. Et de derrière la chaise de mon père, j'observais le cérémonial, qui n'était pas terriblement compliqué. Le vendeur était prié de toucher le coin d'un mouchoir, ce qui signifiait qu'il était d'accord pour céder ses affaires à un non-juif. Ensuite, on lisait l'acte de vente qui commençait toujours ainsi.
Le chametz de Reb un tel et un tel, suivez la liste des objets dans un mélange de yiddish et d'hébreu. J'étais sûre que j'aurais pu faire ce travail moi-même si on m'avait autorisé.
Les hommes bavardaient, signaient et évoquaient d'autres pessars. Mon père demanda à quelqu'un qui était sourd s'il avait de l'alcool à déclarer.
« Oui, un peu de farine de blé !»
Les autres lui crièrent dans l'oreille. « De l'alcool, de l'alcool !»«
Oh, et pourquoi est-ce qu'on m'avait pas dit ? Mais bien sûr que j'ai de l'alcool !» Une veuve qui venait vendre son chametz ne savait pas signer son nom. Et mon père lui dit de simplement toucher la plume. Mais elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Mon père répéta, mais simplement le bout de la plume, juste une seconde. Elle ne savait pas ce que signifiait le bout de la plume. Elle était très capable derrière son étal du marché, mais là, elle était toute troublée dans le bureau de mon père à cause des hommes qui s'y trouvaient. Ma mère vint à son aide et lui expliqua ce qu'elle devait faire. Et ce fut un grand soulagement pour la brave femme qui lui dit « Rebetzin, vous, je n'ai aucun mal à vous comprendre !» Et elle toucha la plume. Puis, dénouant un mouchoir, elle compta plusieurs pièces de cuivre sur la table. « Je vous souhaite une bonne Pâque, » dit-elle à mon père. « Puissiez-vous vivre pour voir la prochaine, » répondit-il. Soudain, sur le visage de la vieille femme, brûlée par le soleil et le vent, les larmes ruisselèrent et tout le monde se tut. Après son départ, mon père dit « Qui sait lequel d'entre nous est le mieux aimé de Dieu ? C'est peut-être une sainte. »
Ma mère, qui était allée recharger la poêle pour y brûler les dernières traces de chametz, revint dans le bureau de mon père, la figure rouge et marbrée de suie. Dans la chambre, les matzot ordinaires étaient accrochés au plafond. Les deux portions préparées avec un soin très spécial et réservées aux plus dévots avaient été mises de côté pour mon père et ma mère. Ma mère, en tant que fille de rabbin, se voyait accorder ce privilège d'habitude réservé aux hommes.
Tout se passa scrupuleusement suivant le rituel. Le soir d'avant Pessah, mon père fouilla tout l'appartement comme le veut la coutume à la recherche de chametz à brûler le lendemain. On avait la permission de manger du chametz jusqu'à 9h le lendemain matin et après cela et jusqu'au coucher du soleil, pas de chametz ni de matzot. Avec de la purée de pommes de terre, des œufs et du sucre, notre mère nous prépara des latkes absolument délicieuses.
Au coucher du soleil, la Pâque commença. Jusque-là, tout s'était bien passé. Je me lavais, mis une chemise neuve, mon pantalon neuf, mes bottes neuves, mon chapeau de velours neuf et mon caftan de satin brillant. J'étais devenu un fils de famille riche et je descendis l'escalier en compagnie de mon père. Les voisins ouvrirent leurs portes pour me regarder passer et plusieurs crachèrent par terre pour éloigner le mauvais œil. Les traditionnelles herbes amères et le réfort me sont...
Les jeunes filles
assises sur les marches en train de râper les traditionnelles herbes amères et le réfort me souriaient, les yeux pleins de larmes à cause du réfort. Les petites filles de mon âge, qui hier encore me prêtaient leurs jouets, me contemplaient d'un air approbateur. Maintenant que nous devenions grands, elles étaient trop timides pour me dire quelque chose, mais leur regard en disait long.
Nous allâmes à la maison d'études de Radzimine, mon père et moi, nous grimpions l'escalier et nous avons essayé d'ouvrir la porte. Elle était fermée à clé et un écriteau y était apposé. Gaz, pas en état de marche, fermé jusqu'après les fêtes.
Fermé ? Le soir de Pessah ? La maison d'études de Radzimin ? Incroyable ! Nous restions là, stupéfaits, sans savoir quoi faire. La verge du sale châtiment disait vrai. On ne doit jamais dépendre du bien-être matériel qui ne vaut jamais que des déceptions. La seule chose qui comptait, c'était servir Dieu et étudier la Torah. Tout le reste n'était que poussière. À la maison d'études de Minsk, où nous allâmes prier, personne ne me connaissait. Personne ne se souciait de mon costume neuf. Je reconnus quelques garçons, mais comme nous n'étions pas des habitués, nous restâmes près de la porte. Ce fut un rude coup et une bonne leçon. On ne doit jamais se laisser entraîner par les vanités de ce monde.
Voilà, tu vois que ça ouais,
il a de la résilience, ce petit garçon. Hein.
Oui, déjà. Alors, c'est vrai que Bachevisiga a été quelqu'un qui n'a jamais été très attiré par le, comment dire, par le bien-être, enfin par
l'argent,
le luxe.
L'argent, quand même.
Oui, par l'argent, oui. Oui, alors, pas tellement par l'argent, mais par la notoriété, par oui. la célébrité. Il oui. était très content de devenir célèbre sur ses vieux jours.
Son prix Nobel et tout.
Voilà, ça a mis du temps. Hein.
Oui. Il était âgé quand il l'a eu, c'est vrai.
Quand il a eu tout ça, mais c'est vrai qu'il était tout à fait attaché à sa, oui, à sa notoriété. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a toujours mené une vie très simple. Bon, déjà, il était végétarien. Je crois que les vêtements n'étaient pas très importants pour lui. Bon, ceci dit, il vivait avec une femme qui avait quand même des moyens, hein, mais c'est vrai que c'est pas du tout quelqu'un qui aimait le luxe, quoi. Et donc, bon, alors est-ce que c'est à cause de cette
oui,
histoire où effectivement il a vu
que... Mais alors, ce que je comprends pas, c'est qu'on donne le chametz à un goy et il donne de l'argent, on le vend réellement, mais on
non.
le vend.
Non, non, ils ont donné de l'argent au rabbin pour le travail. Normalement, c'est purement formel, c'est-à-dire on signe quelque chose et on vend le chametz, mais le goy ne donne pas d'argent.
Ah, d'accord, mais s'ils ont eu beaucoup d'argent, c'est parce que, à cause de tout ce travail qu'a fait le rabbin, il est payé un petit peu
voilà.
par la communauté.
D'accord. Oui, par les gens, hein, par les gens,
par les
personnellement.
Gens, oui.
Alors, c'est vrai que le père de Zinger, de Benjamin Zinger, comme il n'a jamais voulu passer le fameux
oui,
examen en
ça.
Russe, n'a jamais été un rabbin officiel, hein, kazioner rabbe, je ne sais pas comment on disait, kazioner, c'est le mot russe. Donc, il est toujours resté un rabbin, comment dire, oui, un simple rabbin de famille. Et donc, là, il dépendait absolument de l'argent que lui versaient mm-hmm. les gens. Et c'est pour ça qu'ils ont été toujours extrêmement
très pauvres.
Et c'est vrai que Zinger a eu de l'argent qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il a été célèbre. Hein, mais sinon, dans son enfance, ils étaient vraiment pauvres, puisqu'il n'a jamais été fonctionnaire, hein, alors que les rabbins...
Mais là, c'est donc des cadeaux de Pourim qu'ils ont reçus, aussi oui. des gens, des individus, quoi.
Oui, alors les fameux Schlachmanos, oui. mais peut-être qu'on donnait aussi de l'argent.
Oui,
oui puisque vraiment,
on donne de l'argent
aux pauvres,
aussi,
mais bon,
oui.
peut-être aussi aux rabbins. Et là, effectivement, les gens payent quand même pour le fait de signer.
De faire l'intermédiaire, quoi. Il fait l'intermédiaire ouais. avec les goy, quoi, qui vend ouais. Symboliquement tout.
Oui, tout ça est symbolique, mais enfin, c'est quand même un travail. Effectivement, il faisait des listes qu'il fallait signer. Donc, voilà, comme on fait toujours. Hein, il y a toujours ouais. des pouvoirs à la synagogue que j'ai soigneusement rempli.
on peut le faire par Internet, on peut le faire par.
Oui, on peut aussi faire par.
Slash code, machin. Maintenant,
absolument,
la modernité est là, mais on le fait.
On le fait. Voilà, et eh bien, on vous souhaite, pas une joyeuse fin de Pessah. Puisque notre émission passe à
Mimouna.
La fin. Voilà, oui, tout ça sera fini lorsque notre émission passera. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci à elle.
Et
à bientôt.
Et merci Thomas. À la semaine prochaine. Shalom Aleichem.
Shalom.
Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern.
Aïe, 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 aïe.